Aujourd'hui, pour notre première émission de Web Radio au lycée français François Mitterrand de Brasilia, nous avons décidé de parler de la COP27 qui a eu lieu du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'acronyme COP désigne Conférence des parties, Conference of the Parties en anglais. La première COP a eu lieu en mars 1995 à Berlin. L'apparition des COP va de pair avec la constitution du GIEC. Il s'agit du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cet organisme est chargé d'évaluer la réalité, les causes et les conséquences du changement climatique qui est, comme nous le savons tous, enclenché depuis de nombreuses décennies, voire quelques siècles.
Alors, qu'est-ce qui incite la communauté internationale à se réunir encore une fois pour l'environnement et quels sont ses objectifs ?
L'Afrique subit de plein fouet le changement climatique, environ une augmentation de 0,3 degrés Celsius par décennie depuis 1991. Le Pakistan est aussi le théâtre de catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, telles que des sécheresses, accompagnées de famines, ou bien encore des inondations, comme celle de septembre 2022. Or, les effets du réchauffement climatique sont plus difficiles à gérer pour les pays les moins avancés que pour les pays riches. Pourtant, ce sont les pays riches qui polluent le plus notre atmosphère, avec notamment une industrie développée, une démocratisation des transports polluants, entre autres. Les pays vulnérables réclament donc une compensation pour ces dommages suite aux catastrophes écologiques. Nous devrions parvenir à 100 milliards d'euros par an de transfert des pays nord vers les pays du sud pour aider à des projets d'adaptation ou de transition écologique. Cette mesure avait déjà été évoquée lors de la COP15 de 2009. En outre, le but de la COP27 serait de convenir d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de réduire la hausse des températures estimée de 0,4 voire 0,9 degrés Celsius. Mais ces émissions sont en grande partie dues à l'économie de la Chine, dont le leader, Xi Jinping, n'a pas souhaité prendre part à la COP27. C'est donc une réunion cruciale pour déterminer notre avenir climatique dans un avenir proche comme lointain.
Compte tenu de cela, la question qui s'impose, c'est de savoir quels sont ces résultats en nous appuyant sur les engagements des différents pays.
Lors de la COP27, de nombreux pays ont déterminé quelles politiques et mesures ils ont décidé d'adopter pour lutter contre le changement climatique dans leurs pays respectifs. Des exemples sont: aux États-Unis, il y a l'apparition d'un plan climat créé par le gouvernement de Joe Biden qui vise à réduire les émissions de CO2 de 40% jusqu'à 2030. Les plans de projet sont des avancées inédites considérant la situation du pays. La France est au contraire condamnée pour son inaction. Le gouvernement français n'a pas respecté la promesse faite en 2017, qui assurerait le respect des accords de Paris déterminés lors de la COP21. L'État français reçoit donc de nombreuses condamnations pour inaction climatique et préjudice écologique. Le Brésil nourrit en revanche beaucoup d'espoir. Luiz Inácio Lula da Silva, le président nouvellement élu, invité à la COP27, a promis des efforts significatifs quant à la préservation de la forêt amazonienne. Il a aussi appelé de ses voeux une agriculture responsable capable d'éradiquer la faim dans le monde. N'oublions pas, en effet, que la notion de développement durable comporte aussi la notion d'équité sociale.
Et si les différents États et ses représentants sont les acteurs les plus connus, n'oublions pas non plus les lobbies pratiqués par différents agents, qui restent quand même une pratique très présente cette année et qui ne semble pas prête à disparaître.
En effet, la COP27 a accueilli un grand nombre d'entreprises qui sont consommatrices ou productrices d'énergie fossile, comparé à l'an dernier lors de la COP26. D'après des analyses faites par l'organisation Global Witness, il semblerait qu'il s'agit d'une augmentation de plus de 25% par rapport à la dernière COP. Ouvrez les guillemets. Cela montre une augmentation de l'influence de l'industrie des énergies fossiles dans les pourparlers sur le climat. Fermez les guillemets. Des pourparlers qui, d'après leur analyse, sont déjà en proie à des accusations de censure de la société civile et d'influence d'entreprises. Global Witness affirme même, ouvrez les guillemets, si l'industrie des combustibles fossiles était un pays, elle aurait de loin le plus grand nombre de délégués à la COP27. Fermez les guillemets. Effectivement, il n'y a jamais eu tant de lobbyistes liés aux énergies fossiles présents à une COP. Les défenseurs du climat se rassemblent ainsi pour dénoncer leur présence disproportionnée à la COP27. Ce que l'on remarque, c'est qu'alors que les dirigeants du monde entier sont appelés à renouveler leurs engagements pour ralentir et ainsi espérer diminuer les effets du réchauffement climatique, pour lequel l'exploitation des énergies fossiles est en grande partie responsable, les lobbies ou groupes d'intérêt liés à ce secteur commencent à s'activer. Selon la liste provisoire des participants, près de 14 000 observateurs sont accrédités sur près de 33 500 participants à la COP27. Parmi eux, des ONG, acteurs de la transition climatique, représentants des peuples indigènes, mais également beaucoup d'entreprises liées aux énergies fossiles qui souhaitent défendre leurs intérêts.
L'Association internationale pour l'échange des droits d'émission, IETA, un lobby d'entreprises composé notamment des producteurs de combustibles fossiles, est encore bien présente cette année avec pas moins de 130 membres. Selon l'organisme Corporate Accountability, ces groupes d'intérêt jouent un rôle prépondérant dans les marchés du carbone. Ces marchés permettent aux pays et entreprises polluantes d'acheter des droits d'émission et ainsi continuer à polluer. Ouvrez les guillemets, leurs intérêts sont la plupart du temps opposés au sens dans lequel vont la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques, déclare Brice Baumer, directeur climat et environnement au sein de Transparency International. Présent à la COP27, cet organisme de lutte contre la corruption plaide pour un mécanisme de transparence permettant de déclarer publiquement quels intérêts chaque participant défend et dans quelle mesure ils ont accès aux décideurs publics auprès desquels ils peuvent exercer un véritable lobbying. Les représentants d'industries fossiles ont en général le simple statut d'observateurs comme les ONG, alors que le pouvoir de prendre les décisions revient aux délégations nationales. Toutefois, des représentants d'entreprises liées aux énergies fossiles peuvent se hisser au sein même de ces délégations. Ceci leur permet d'obtenir une place privilégiée aux tables de négociation. Ouvrez les guillemets, des représentants d'entreprises fossiles arrivent à faire partie des délégations nationales, notamment dans les pays producteurs de pétrole. C'est un problème parce qu'ils sont vraiment avec les négociateurs. Ils peuvent voir ce qui se passe alors que les ONG ne peuvent pas, ajoute Brice Baumer. Compte tenu de ces lobbying des entreprises, quel est donc le bilan de la COP27?
C'est comme une histoire qui se répète. La COP27 à Sharm el-Sheikh a réuni de nombreuses ONG, des représentants d'État, des entreprises. Pourtant, les intérêts contradictoires de chacun de ces négociateurs aboutissent trop souvent à une impasse ou à des promesses non tenues. Des points positifs méritent d'être retenus. Le financement des pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables au réchauffement a tout de même été qualifié d'historique. Il s'agit d'un fonds permettant de dédommager les pays les plus vulnérables au changement climatique, notamment lorsqu'ils sont touchés par des catastrophes climatiques. Pourtant, le verdict de Frans Timmermans, le vice-président néerlandais de la Commission européenne chargée du Pacte vert, est sans appel. Ouvrez les guillemets, pas de mention de la fin des énergies fossiles, pas de mention d'une date pour le pic des émissions de gaz à effet de serre, pas de mise à jour des soi-disant engagements nationaux de réduction, on n'a rien fait sur la réduction des émissions. On a perdu un an, on a même dû se battre comme des fous pour éviter de revenir en arrière, pour sauver les acquis de la COP26 de Glasgow en Écosse, ce n'est pas suffisant, fermez les guillemets. Comment dès lors obliger les pays à respecter leurs engagements? Pour les ONG, les procès juridiques peuvent être un outil efficace.
Outil, celui-ci qui a été bien utilisé ces dernières années, notamment lors du célèbre « Affaire du siècle ».
L'État français condamné pour une action climatique, je vous explique. Pour la première fois et depuis longtemps, l'État français a tremblé face à deux condamnations en justice pour inaction climatique. En effet, le 17 décembre 2018, un procès s'est ouvert opposant l'État français contre quatre associations de protection de l'environnement et de solidarité internationale. Greenpeace, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et Notre Affaire à tous, dont une pétition avec 2,3 millions de signatures devant le tribunal administratif de Paris, c'est l'affaire du siècle. Les associations accusent l'État français de non-respect de ses propres engagements en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des budgets carbone plafond. Le tribunal va leur donner raison par préjudice écologique aux organisations. Même si, en septembre passé, le gouvernement conteste la décision du tribunal en affirmant que celui-ci n'a jamais nié le fait de manquer à ses engagements. De plus, le 19 novembre 2020, le Conseil d'État a rendu une décision pour la lutte contre la crise climatique, répondant à un recours en justice lancé par la commune de Grande-Synthe en 2018. Il a mis l'État face à ses responsabilités, le contraignant à donner en 3 mois la possibilité de prouver qu'il met en place des moyens suffisants pour atteindre son objectif de réduire ses émissions de 40% d'ici 2030. L'État français se trouve donc, je cite, « dans l'étau d'une double obligation ».